gare, point, c'est tout.
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. L'été a sérieusement devancé l'appel. Tous ceux qui doutent du changement climatique n'ont qu'à mettre le nez dehors pour se dire qu'une fin de printemps aussi torride est anormalement anormale. Bon, pour nous lecteurs, c'est un moindre mal, une pièce sombre, laissant passer les courants d'air, un verre d'eau fraîche à portée de main, et c'est presque le paradis. Et pourtant, avec ce guide dont nous allons parler, c'est un appel à chausser ses chaussures de marche, à empoigner son sac à dos et à sortir pour aller à la rencontre de ces 100 lieux qu'Étienne Bégoin a sélectionnés dans cette belle région qu'est l'Anjou. 100 lieux, rien moins que ça. Et bonjour, Étienne Bégoin.
Bonjour, Luc.
Comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Je vous avais déjà invité dans l'émission le 6 janvier 2021, comme le temps passe, pour votre magistral livre « Espace naturel sensible en Anjou », dans lequel vous mettiez votre talent de photographe au service d'un dispositif de l'aménagement du territoire tout à fait d'actualité, les espaces naturels sensibles. Ce dispositif consiste à définir des territoires à préserver du fait de leurs richesses écologiques, faune, flore, géologie, paysage. Et dans ces dernières semaines, on se dit qu'un tel livre devrait être offert à tous nos élus quand on voit les coups de boutoir que subissent les lois déjà votées. Réintroduction des néonicotinoïdes, contournement de la loi pour reprendre le chantier de l'A69, suppression des ZFE, réduction drastique de l'agence bio, et j'en passe. Alors, aujourd'hui, vous revenez, Étienne Bégoin, sur le devant de la scène avec ce petit guide pratique très impressionnant, Anjou, 100 lieux pour les curieux. En cette veille de grandes vacances, on peut penser qu'il est bienvenu. Je dis petit guide et ce n'est pas péjoratif, c'est juste qu'il a la taille idéale pour se glisser facilement dans un sac de randonnée. Ce guide s'inscrit dans la collection des éditions Christine Bonneton, 100 lieux, point de suspension, et qui visite les départements français. Mais ce guide, qui en a eu l'idée ? C'est vous ? Ou c'est une commande de la maison d'édition Christine Bonneton ?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que les guides existaient, effectivement, il y a, peut-être une trentaine de départements qui sont traités. Et un jour, j'étais dans une librairie et je suis allé au rayon guide, simplement. J'ai feuilleté, parce que j'avais envie d'idées pour les excursions. Et je suis tombé sur cette collection que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça assez sympa parce qu'elle est assez vivante dans sa présentation, colorée, avec beaucoup de photos. Comme je suis photographe, ça tombe bien. Et je me suis dit que après plusieurs livres, notamment le premier sur l'Anjou, un sur la Loire-Atlantique, et à l'époque j'étais pas encore engagé sur un livre que j'ai fait sur le Cher, je me suis dit tiens, je changerais bien un petit peu de direction pour visiter mon territoire autrement, chose que j'avais fait effectivement que sur les espaces naturels. Ça m'a permis aussi de découvrir d'autres choses en Anjou dont j'avais envie de parler. Et puis du coup, de faire un guide comme ça qui traite de différents sujets, aussi bien les espaces naturels d'ailleurs, que des festivals, que des créateurs, que des artisans, du patrimoine industriel, et de rencontrer des gens et des acteurs du territoire qui ont envie de le rendre vivant, ce territoire. Des associations, par exemple, qui se battent au jour le jour pour sauvegarder du patrimoine ou du patrimoine industriel, notamment. Voilà.
Alors, malgré tout, bon, voilà, moi je vous imagine, je vous vois dans les rayons de la librairie, là, vous prenez les livres, vous les reposez, puis vous voyez cette collection de 100 lieux. Et puis vous dites, tiens, pourquoi pas,
ouais.
Ça peut être intéressant. Alors, 100 lieux quand même. Alors quand on est au 67e, 68e, 75e, mais il faut arriver à 100 et vous avez fait un peu plus de 100. Bon, ça doit être, il y a des moments d'angoisse, non?
Oui, c'était assez, c'était un gros boulot, mais passionnant en même temps. Donc, j'ai pas vu le temps passer. Voilà. Pour revenir, d'ailleurs, j'ai pas fini de répondre à la question. Oui. En fait, j'ai appelé moi l'éditeur. Enfin, j'ai envoyé un mail à l'éditeur simplement. Je me suis présenté et ils m'ont pas recontacté tout de suite. Je crois que mon mail a été oublié pendant plusieurs mois. Et un jour, ils m'ont recontacté. Ah bah, ça nous intéresse. Moi, j'étais sur un autre projet. Voilà. Et donc voilà, c'est parti un an après la date qu'ils auraient voulu. Et puis effectivement après le délai était un peu court, du coup j'ai repoussé, enfin bon bref, et parce que je me rendais pas compte du travail non plus, et puis le travail de recherche, d'écriture, d'aller aussi quand c'était possible interviewer les gens sur place qui me racontent des histoires. Moi ce qui me tient à cœur, c'est que ce soit pas un guide un petit peu sec juste avec des références historiques, mais qu'il y ait des anecdotes, des histoires de vie de gens, voilà. D'ailleurs, les coups de cœur sur ces 100 lieux, parce que du coup, j'en avais même beaucoup plus à un moment, et il a fallu que je refasse un tri. Et j'ai privilégié souvent quand vraiment j'avais un coup de cœur pour des gens. Je sais pas. Je pense par exemple à Dénézé. Oui, c'est ça, à Dénézé sous Douai. Il y avait l'association qui sauvegarde les sculptures. La cave vivante aux sculptures, voilà. Et puis je pense à d'autres gens. En fait, c'est ça dont je voulais parler. C'est la cave vivante aux champignons. Et c'est une des premières personnes que j'ai vues. Et un gars qui s'appelle Jackie et qui cultive des champignons. Ils sont cultivateurs de père en fils. Et en fait, il a créé un musée en même temps sur toute l'histoire des champignons, des champignonnières, et aussi de l'extraction de tuffeaux. Et puis il se met en scène, lui, avec des vidéos, avec un jeu de son et lumière. Et en fait, il a un humour incroyable. C'est un personnage à la Audiard. Enfin voilà.
Donc a priori, non pas a priori. Donc plutôt l'angle humain, en fait, hein, qui vous a animé la quête des gens qui racontent des histoires. Cependant, pour revenir un petit peu, parce que moi, quand j'ai vu 100 lieux, quand on prend un livre qui s'appelle 100 lieux, on le prend, on le feuillette. Mais dès qu'on commence à réfléchir dessus, on se dit 100 lieux quand même. Donc il faut les trouver, les 100 lieux. Vous n'êtes pas natif de l'Anjou.
Non.
Hein? Alors, pour faire un guide de cette nature, bon, déjà, il faut aimer le territoire. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'Anjou?
Alors je suis pas natif de l'Anjou, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que j'y suis, et puis que j'y allais aussi en vacances parce que j'avais de la famille là. Mais ce qui m'a séduit, c'est le côté très éclectique. Il y a beaucoup de patrimoine industriel notamment, du patrimoine historique, des espaces naturels très variés. Voilà, donc ça je m'en étais rendu compte. Et puis pour les trouver, les 100 lieux, ben j'ai tout simplement été en bibliothèque d'abord, chercher des livres historiques. J'ai trouvé des choses qui étaient un petit peu oubliées. Parfois, je sais pas, je pense à la chapelle Saint-Joseph du Chêne, où il y a un chêne qui pousse dans la chapelle avec la statue de Saint-Joseph à l'intérieur, un chêne creux, qui aurait entre 1500 et 2000 ans. Et tout le monde a un peu oublié, j'en parle souvent, et les gens me disent « Ah bon ?»
À Villedieu-la-Blouère.
À Villedieu-la-Blouère.
Alors, vrai nom de l'Anjou, ça. Villedieu-la-Blouère. Voilà. Ça sent le terroir, là.
Et on rentre dans cette petite chapelle et on voit le chêne qui, à l'intérieur, creux, et aussi à l'extérieur, où il y a les murs de la petite chapelle, là, qui sont complètement insérés dans l'écorce de l'arbre, et vice versa, quoi. Enfin.
Alors, donc, des recherches, mais, vous êtes photographe, vous avez fait ce travail sur les espaces naturels sensibles. Est-ce que dans le travail sur ce guide, vous avez pioché dans votre stock à vous de documentation, de visites que vous aviez déjà fait quand vous avez fait les espaces naturels sensibles? Est-ce que vous aviez noté un truc qui n'a pas servi, mais bon, ben voilà, vous savez, le bricoleur qui garde plein de choses et qui se dit ça peut toujours servir, ça sert jamais en réalité, mais c'est pas grave, ça peut toujours servir. Mais un photographe comme vous, est-ce que vous aviez comme ça, vous avez repuisé dans votre stock à vous, dans vos archives, pour alimenter ce guide-là?
Alors un petit peu pour ce qui est des espaces naturels, effectivement. J'ai réfléchi aux espaces naturels qui étaient vraiment atypiques, parce que c'est la thématique du guide, hein, c'est atypique. Donc il y a 3-4 espaces naturels où j'ai repris effectivement des images que j'avais fait à l'occasion de ce travail. J'ai réécrit un texte, voilà. Je pense notamment aux enclaves calcaires de Châteaupanne, qui est un espace complètement à part en Anjou, avec où on monte sur une espèce de colline, ça fait un espèce de cratère, on se croit sur un volcan. Enfin, et après il y a un bois humide. Enfin, il y a des contrastes de paysages incroyables. Et puis c'est une terre calcaire, alors qu'on est en pleine zone de schisteuse. Par exemple, voilà. Donc ça me semblait important de le mettre.
Géographiquement, mettez-nous une grande ville à côté.
Alors c'est entre Chalonne et la ville que dessus, ça m'échappe, sur la direction en allant vers l'ouest, quoi. De Chalonne à
Montjean.
Montjean.
Voilà. Montjean.
Entre Chalonne et Montjean.
D'accord. Ouais. Ok. Ok. Alors sur ce guide qui fait 160 pages à peu près, hein, vous avez fait toutes les photos et tous les textes?
Oui. Alors, j'ai fait tous les textes.
Presque toutes les photos.
Et presque toutes les photos, sauf 2-3 photos, je crois. Oui. Parce que j'avais besoin d'une photo particulière, parce que j'avais envie de parler d'un événement. Par exemple, l'association Vignanville à Angers font un travail formidable. Ils gèrent, en fait, d'ailleurs en bio, même biodynamie, hein, le chenin blanc sur une petite parcelle qui fait un hectare
au monastère.
Au monastère, voilà, devant l'abbaye Saint-Nicolas. Là. Mm-hmm. Et en fait, ils organisent un festival tous les ans qui s'appelle Vignan Folk, je crois. Et en fait, je n'ai pas pu y aller, j'avoue, parce que je n'étais pas là ce jour-là. Ça s'est mal tombé et ils m'ont envoyé une photo, par exemple, une belle photo du festival.
Mais tous les textes.
Mais tous les textes, oui. Oui, oui.
Ah, mais ça a pris combien de temps? Parce que c'est phénoménal.
Bah je ne sais pas si c'est phénoménal, mais...
Ah si, si parce que encore quand un auteur écrit un roman, bon, bah voilà, il est dans son truc. Ouais. Là, on est sur quelque chose de très pointu, parce qu'il faut contenir les textes sur deux pages. Enfin, il y a un cahier des charges très très précis. Donc quand même, c'est du boulot, oui.
Oui, oui, c'est du boulot. Bah, ça m'a pris, en gros, le travail en entier m'a pris un an. Donc c'est à peu près moitié-moitié les photos et les textes, quoi. Peut-être, oui, peut-être 4-5 mois au moins pour écrire les textes.
Dans ces lieux, donc on trouve tous les genres, hein. Nature, histoire, patrimoine industriel, urbanisme. Commençons un peu par la nature. Vous présentez par exemple le platane du parc du Frêne à Savenières.
Oui.
Alors, pourquoi cet arbre particulier?
Alors cet arbre, il est incroyable, je l'avais déjà découvert avant et personne ne le connaît, c'est pareil. Et en plus, paradoxalement, ça s'appelle Parc du Frêne et il y a un grand platane, donc déjà c'est assez marrant. Et c'est un des plus vieux, en tout cas le plus vieux d'Anjou et un des plus vieux de France. D'ailleurs, c'est pas un platane, c'est un double platane. Et il y a même, il est double, il est même triple, parce qu'il y en a un qui a deux grands troncs qui partent et il y a un platane à côté avec une branche... horizontale qui est très longue et donc on arrive là et on n'en croit pas ses yeux, quoi. Et en fait c'est pas du tout indiqué, il y a écrit Parc du Frêne, bon, on se dit Parc du Frêne, qu'est-ce que c'est, et puis on arrive là et il y a ce platane énorme et qui est pas tellement mis en valeur, peut-être que à la limite c'est mieux comme ça, qu'il n'y ait pas trop de monde. D'ailleurs ils ont protégé autour pour pas qu'on aille dessous parce que c'est quand même assez fragile les racines. Voilà, donc j'ai écrit un petit texte là-dessus, et c'est comme un arbre-monde, ce que j'appelle les arbres-monde, j'appelais ça Planète Platane. Voilà, dans un des cahiers des charges du livre, c'était essayer de trouver des titres un petit peu décalés.
Oui, on le sent, le feuilleton, il faut attirer l'attention du lecteur et les titres sont souvent très, très intéressants. Donc, il y a cet arbre-là. Et puis, il y a celui dont vous avez parlé, là, la chapelle Saint-Joseph, quoi, qui est quand même, alors pour moi, c'est une découverte, hein, je connaissais pas du tout cette chapelle arbre-chapelle, enfin, cet objet hybride en réalité. Ouais. Hein, parce qu'on est vraiment sur de l'hybridation là entre le bâti et la nature, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. Cette chapelle Saint-Joseph, qui vous a indiqué la piste, qui vous a dit, tiens, il y a ce truc-là à voir à cet endroit?
Alors, personne ne me l'a indiqué. C'est un livre que j'ai trouvé par hasard en bibliothèque. Oui. J'ai feuilleté sur l'Insolite en Anjou, qui est un livre qui est peut-être des années 60, quelque chose comme ça. Et j'ai vu une photo noir et blanc. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça se visite encore? On peut y aller. Et en fait, la chapelle, elle est ouverte au public. Et donc on arrive déjà à l'extérieur. On a du mal presque à distinguer entre l'arbre et le mur. Enfin, tout se confond un petit peu. Puis ce pauvre arbre, il est étayé dans tous les sens pour le maintenir en vie, parce que ça serait un des plus vieux chênes de France. Il aurait entre 1500 et 2000 ans.
Ce qui est extraordinaire. Autant que les séquoias au Yellowstone.
Voilà. Et puis c'est une histoire. Du coup, je raconte un petit peu cette histoire. Du coup, j'ai trouvé un petit peu en faisant des recherches avec ça date d'il y a 150 ans, un truc comme ça, ou 200 ans peut-être. J'ai plus toutes les dates en tête, mais en tout cas, c'était une volonté de mettre en valeur cet arbre extraordinaire, une volonté religieuse. Par un curé et son ami, et qui se sont dit, tiens, si on faisait un espèce de sanctuaire, là, il y a un grand creux dans cet arbre, ils ont mis une statue de Saint-Joseph, et ça a attiré des pèlerins assez vite. Et petit à petit, il y a eu un oratoire, après une chapelle, et après, derrière la chapelle, s'est construit une église, du coup. Et ça a attiré beaucoup, beaucoup de pèlerins à un moment. C'était un pèlerinage très important.
Donc, pour tous les curieux, il suffit d'aller à Villedieu-la-Blouère.
Tout à fait.
Charmant village du sud du département. Alors, moi, j'en aurais rajouté un. Du côté du château de la Turmelière, il y a le châtaignier vénérable de la Beuverie à Liré. On dit que Joachim du Bellay a marché à côté. De toute façon, il est de cette époque-là. Et quand j'ai regardé, parce que vous consacrez un article au château de la Turmelière, je me dis, est-ce qu'il va y avoir ce châtaignier qui est un châtaignier? Alors j'imagine aussi magique que le chêne ou que le platane du parc du Frêne, c'est un châtaignier qui est tout tortueux, il a vrillé en croissant, il est dans un sentier, là aussi, on le voit pas, donc il faut vouloir le voir pour le voir. Donc voilà, en fait, il m'a manqué ce châtaignier.
De toute façon, ça fait plusieurs personnes qui disent « Ah, mais t'aurais pu mettre ça, bah, c'est sûr, oui, j'aurais pu mettre 150 ou 200, mais là, j'étais contraint un petit peu. » Après, il y a une histoire de thématique, on peut pas mettre non plus trop d'arbres.
Bien sûr.
Mais effectivement, on a déjà parlé de ce châtaignier après coup. Par contre, j'ai mis l'ancien manoir de Joachim du Bellay, qui est derrière le château de la Turmelière, du coup, et qui est impressionnant parce que c'est très émouvant, en fait. On a en tête les rimes de Joachim du Bellay qui parlent de « Quand reverrai-je ma cheminée ?»
Et mon petit liré.
Et on voit la cheminée. Il y a la ruine du manoir et on voit bien encore la cheminée qui se dresse dans le ciel.
Alors à Liré, pour les curieux, il faut aller voir le château de la Turmelière, bien évidemment. Enfin, la ruine du château de Joachim du Bellay. Et puis il faut aller visiter le musée Joachim du Bellay, qui est un magnifique petit musée. Mais vraiment, c'est tout petit. Mais il est magnifiquement fait, il est sublime, les planchers grincent, c'est extraordinaire. Voilà, ça, pour prolonger en fait la visite quand on est là-bas, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale.
Je me sens déconnecté de moi-même, comme si je repoussais mon cœur. Pour ne pas qu'il me malmène, mon corps remène mon sort à mes veines. Qu'est-ce que j'ai vécu qui me gêne? Comme si je congelais mon heure. Amour ou mort, c'est pas si fort. Je congestionne mes peines. Marathon, fatigue se traîne. Visage aride, je force mon âme. Tout est plus long, tout est plus calme. Aucun moment n'est foudroyant. Je suis sur une pente progressive. J'en vis l'orage et les tourments. Avec un petit peu plus de vent qui tourne les pages et les instants. Quand le soleil brûle le jeu et que la pluie inonde les mains. Ou simple geste est trop intense. C'est dur et bien, mais le cœur blesse autant qu'il bat et s'en remet. intense foi qui ne s'affaisse, puisque tout le poids de l'ivresse permet de connaître ses plaies et de choisir les bons pansements que moi je colle sur les autres pendant que j'infecte mon hôte. Je suis pas le seul, mais inapte à recevoir les soins que je capte, que je laisse loin et qui m'échappent, sauf quand j'écris et que j'écoute les mots, les Juno des amis qui brisent mon taux de globules rouges, qui libèrent mes insomnies et laissent enfin goûter la pluie entre mes mains qui se délient. Je sens enfin ce qui me touche quand je me terre dans les orties. C'est comme mes pores qui se débouchent pour ressentir un peu la vie que je fantasme sous ma douche en imaginant que c'est la pluie qui coule le long de ma bouche. Je me sens déconnecté de moi-même, comme si je repoussais mon cœur pour ne pas qu'il me malmène. Mon corps et même mon sort à mes veines. Qu'est-ce que j'ai vécu qui me gêne? Comme si je congelais mon âme. Amour ou mort, c'est pas si fort. Je congestionne mes peines. Je me sens déconnecté de moi-même, comme si je repoussais mon cœur. Pour ne pas qu'il me malmène, mon corps et même mon sort à mes veines. Est-ce que j'ai vécu qui me gêne? Comme si je congelais mon âme. Amour et mort sont pas si forts. Je congestionne mes peines.
L'autotune se justifie. Retour de Théophile avec un nouvel EP et ce titre extrait de cet EP, Déconnecté. Ce jeune homme a tout juste 30 ans d'ailleurs. Le titre de l'album, c'est de l'EP, c'est Troisième Dizaine. Mais quelle maturité quand même. Son parcours est sans fausse note depuis le départ. Et vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5, et vous écoutez Entre les Pages. Dans l'émission du jour, je reçois Étienne Bégoin, auteur du guide Anjou, 100 lieux pour les curieux. Alors, vous parlez aussi dans ce guide. Alors là, on se rapproche d'un coup de Villedieu-la-Blouère. Hop, on s'approche d'Angers. Vous parlez du patrimoine militaire avec les surprenants blocos du parc de Pignerolles près d'Angers. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Ah oui, alors ça c'est absolument incroyable aussi, ces blocos. J'étais déjà allé me promener par là et puis j'avais vu ces blocos surgir dans la forêt. On s'attend pas du tout à avoir des blocos dans une forêt.
Et autant
en plus, enfin voilà. Et en fait, ça a une histoire très très lourde. Alors il y a une association qui s'occupe de les faire vivre, de faire visiter. Donc on peut visiter l'intérieur de ces blocos. Et c'était le centre de commandement des sous-mariniers pendant la guerre, enfin la sous-marinier nazi, et donc c'était là quoi, un petit peu à l'écart de la côte, comme ça ils étaient sûrs d'être un peu planqués. Et en plus le château de Pignerolles a été même pendant un temps, quelques mois, le gouvernement provisoire de Pologne. Voilà, donc et puis on visite ces bunkers en imaginant la vie que ça pouvait être à l'intérieur. Dans la forêt, comme ça, avec, on a même droit à une démonstration de morse. Et puis, il y a des projections à l'intérieur, éventuellement, s'ils sont bien lunés, si on a le temps, et tout ça, ils font des projections à l'intérieur de diapos noir et blanc de la vie à l'époque, à Pignerolles, quand il y avait l'occupation nazie, quoi, et que les bunkers étaient en fonction.
Alors, ce qu'il faut dire, hein, c'est que beaucoup des endroits qui sont dans ce guide tiennent parce qu'il y a des équipes de bénévoles derrière.
Ouais.
Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il y a la citoyenneté, ça existe, l'engagement pour son territoire, ça existe, et c'est le cas de Pignerolles. En fait, c'est une association hein, qui défend ce patrimoine. C'est vrai que quand on connaît pas, qu'on se promène dans ce parc de Pignerolles, qu'on voit ces bunkers surgir, pour moi qui ai vécu pendant un temps dans la Meuse, à côté de Verdun ou en Lorraine d'ailleurs, j'ai cru avoir franchi comme ça tout d'un coup une frontière sans m'en rendre compte, parce que c'est vraiment tellement tellement surréaliste, on l'imagine tellement peu en fait. Et puis quand on connaît la destination de ces endroits, ils commandaient des sous-marins ouais. à 100 km de distance.
Oui, tout à fait.
Donc il y a ça, il y a aussi ça. Alors vous en avez parlé un tout petit peu. On peut peut-être en dire un tout petit mot. C'est la cave aux sculptures de Adonésé sous Douai.
Oui.
Là aussi, ça aussi c'est impressionnant quoi. Quand on arrive, on se promène. Moi j'ai découvert cette cave en me promenant. Je traverse Adonésé qui est pas forcément une capitale régionale. Hein. On doit reconnaître qu'il y a pas beaucoup d'habitants.
Oui.
Et il y a cet endroit. Alors, racontez-nous un peu.
Alors déjà, effectivement, c'est des bénévoles qui s'occupent de faire les visites. Et d'ailleurs, la dame qui s'occupe de faire la visite a passé son enfance là. Et donc, a plein d'anecdotes à raconter. Et donc, on arrive là et c'est une espèce d'accumulation de visages, de personnages sculptés et avec... alors c'est à la fois païen, à la fois religieux, ça date de la Renaissance, hein, des guerres de religion a priori, et en même temps il y a une histoire qui est un petit peu trouble, on ne sait pas trop, ils savent pas trop, ça mériterait qu'il y ait des historiens un peu pointus qui se penchent un peu plus dessus, parce que il y a plein d'interprétations. Et puis alors ce qui est un peu dramatique, le côté dramatique, c'est que la cave, quand elle a été redécouverte, parce que c'était à peu près il y a une centaine d'années, elle a été redécouverte parce qu'elle avait été complètement oubliée pendant des siècles. Et en fait, elle était exposée à l'air libre. Ils ont mis après une dalle de béton au-dessus, ce qui fait que c'est mal aéré et que en fait, il y a des sculptures qui sont en train de disparaître à vue d'œil quasiment en quelques années. Du coup, on voit des photos même de certaines sculptures qui étaient en bon état et en fait, les visages s'effacent. Et donc cette association demande des subsides pour pouvoir restaurer et pouvoir avoir une aération correcte.
Pour pouvoir la préserver.
Pour pouvoir la préserver, parce que ouais, c'est un trésor, vraiment.
C'est un trésor qui est complètement... Alors, on peut supposer qu'il y a du religieux, mais qu'il y a du païen derrière. Ouais. Les sculptures sont intriquées, imbriquées. Ouais. Enfin, c'est assez impressionnant, ouais, en réalité. C'est complètement... c'est presque de l'art brut, en fait. Ouais. On peut supposer que ce n'est pas des artistes qui ont fait ça.
Il y a même de l'érotisme.
Hein. Oui.
C'est... Et puis on se moque un petit peu de la royauté aussi. Voilà. Enfin, c'est...
mais quand on s'y promène dedans, cette femme qui fait visiter supplie les gens de ne toucher à rien, ouais, parce qu'il ne faut toucher à rien. Ouais. Sinon, ça s'effrite. Enfin,
ah,
c'est
très tendre. Ouais.
Alors, il y a aussi, moi aussi, j'ai découvert plein d'endroits que je ne connaissais pas du tout, Alors moi, j'ai une excuse, ça fait que 7 ans que je suis en Anjou, donc bon, j'ai encore un mot de mes parents, hein, finalement. Il y a ce cabinet de curiosité à Beaufort en Anjou.
Oui.
Ça aussi, c'est complètement...
Ah oui, c'est incroyable.
C'est surréaliste, ça.
Ouais, ah ben c'est surréaliste, ouais. Ouais, le musée Joseph Denet, qui était, en fait, ça reprend les cabinets de curiosité qui étaient très en vogue au début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e siècle. Donc en fait, c'était une accumulation d'objets complètement éclectiques. Et on arrive là, alors il y a à la fois des momies égyptiennes, il y a à la fois un planétarium, il y a des animaux empaillés, et puis il y a même un buste de Camille Claudel. Enfin, et tout ça s'accumule. Et donc c'était un collectionneur qui a pendant des années amassé comme ça tout plein de choses hétéroclites et qui a récupéré finalement il y a un bâtiment qui lui a été confié qui était une ancienne poste voilà avec en plus l'architecture est assez curieuse quoi.
Voilà. C'est l'image qu'on voit dans le guide. Enfin, moi, j'ai coché plein de cases. Hein. Moi, je sais que j'ai des destinations prochaines. J'en ai un sacré paquet. Mais là, j'ai vraiment découvert ça. Enfin, ça a l'air assez étonnant. Et puis, je trouve ça assez génial. Moi, je découvre le musée des sciences naturelles d'Angers. Alors, c'est à moins de 200 mètres de chez moi,
ouais,
très précisément moins de 200 mètres. Alors vous êtes vraiment gentil quand vous dites l'entrée discrète ne laisse rien présager du contenu. C'est pas discrète quelle est l'entrée, c'est complètement anonyme. Hein.
C'est, oui.
c'est, On
s'attend pas à ça.
Non, on s'attend pas à ça. Enfin, là aussi, moi, je vais jamais dans ces lieux parce que c'est souvent un peu poussiéreux. Oui. Mais non, c'est pas du tout le cas pour ce musée des sciences naturelles.
Alors, il y a quand même un côté un petit peu poussiéreux dans le sens où ils se plaignent d'ailleurs de pas avoir assez d'aide parce que il y a des choses qui tombent un petit peu en déliquescence, quoi. Et en même temps, c'est resté vraiment dans son jus. Il y a un côté, alors déjà, l'architecture est assez incroyable à l'intérieur. Il y a une espèce de rotonde, de puits de lumière. On arrive sur une terrasse extérieure avec des colonnades un peu gréco-romaines. Enfin, c'est une alliance d'ailleurs entre deux bâtiments qui ont été accolés. Et puis il y a des choses. Alors il y a des animaux empaillés. Mais, alors il faut savoir qu'on n'empaille plus les animaux sauvages. Voilà, sauf des animaux morts éventuellement. Et il y a encore un taxidermiste en fonction, aux dernières nouvelles, parce qu'il était vraiment proche de la retraite. Et
il a encore des années à faire. Suivant les dernières infos que j'ai eues aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des années à faire.
Ouais. Et donc, bah, il s'est d'ailleurs amusé à faire des chimères, par exemple. Il y a des animaux mélangés qui sont assez étonnantes, quoi, à voir. Voilà. Donc
voilà, là on est en plein cœur d'Angers, place un bac pour ceux qui veulent. Alors il faut faire attention hein, quand on est place un bac, il faut le repérer. Il y a un petit panonceau qui l'indique, mais il faut faire l'effort d'y entrer, ne serait-ce que pour l'architecture en fait, que pour le bâtiment quoi, au moins pour ça. Je me suis fait la promesse quand j'ai lu l'article, je me suis dit tiens, je suis quand même angevin, il faut quand même que à 200 mètres j'y vais à pied en 5 minutes, donc il faut que je fasse l'effort d'y aller. Dans tous ces lieux, est-ce que vous pourriez m'en donner 5 comme ça qui ont votre préférence?
Du coup, on a parlé de quelques lieux dans les 5, alors c'est difficile toujours de choisir, c'est un peu selon l'humeur. Moi, je parlerais quand même d'un lieu que peut-être des gens connaissent sous le nom de Centrale 7. Parce que c'est une association, Centrale 7, une association d'artistes qui a récupéré en fait un ancien site minier industriel de mine de fer. Alors c'est pas que ça, il y a l'association Centrale 7 et il y a aussi une association qui fait en sorte de mettre en valeur le patrimoine minier, qui a fait tout un parcours pédagogique sur les anciennes mines de fer et il y a des énormes vestiges des mines de fer qui sont très impressionnantes. Et Centrale 7, à l'extérieur, il y a tout un parc de sculptures. Il y a aussi des expositions temporaires qui sont dans des anciens locaux industriels. Et puis, on regarde à travers des vitres et on voit des énormes... c'est un peu rétro-futuriste, quoi. Des énormes tuyaux dans tous les sens. On se demande à quoi ça servait. Et puis aussi, tous ces panneaux sur la vie des mineurs à l'époque qui étaient difficiles, avec toute une ville hein, de mines qui était là, avec des centaines de personnes qui travaillaient. Après je peux parler je parle aussi de créateurs, aussi de plusieurs créateurs dans le livre. Je trouve qu'un des plus impressionnants, alors c'est quelqu'un qui est mort, c'était Jacques Warminski, qui a créé un lieu qui s'appelle l'Hélice Terrestre à Gênes. Et donc d'ailleurs il y a plein de sites troglodytiques dans le livre qui ont des fonctions différentes. Et lui, ce monsieur, donc, avait racheté un village troglodytique et il a décidé de continuer à creuser dans le tuffeau pour faire une espèce d'œuvre habitation où on a l'impression de rentrer dans le ventre de la bête avec des sculptures. En fait, on rentre dans la sculpture, quoi. Et puis à l'extérieur, il a fait le pendant avec une espèce de cirque. Cette fois en relief, qui reprend un peu les formes de l'intérieur. Enfin, il y a tout un parcours et c'est assez fou. Alors, il a tout un discours hein, très presque mystique, mais en fait, on se laisse porter par cette ambiance-là. Voilà.
On n'est pas loin du facteur cheval.
On n'est pas loin du facteur cheval.
Mais à la différence du facteur cheval, c'est que lui, il a fait des études d'art.
Voilà. Hein,
alors que le facteur cheval, lui, c'est de l'art brut complètement. Lui, c'est
c'est quelque chose. C'est très pensé. Ouais. Sur tous les contraires, en fait.
Oui, c'est très
le concave, le convexe, le sombre, le clair, le chaud, le froid, l'humide, le sec. C'est très pensé. D'ailleurs, il s'est tué tellement à la tâche qu'il est mort d'une crise cardiaque assez jeune, quoi. C'était un colosse incroyable quand on voit les photos. Alors là, j'en ai cité que deux, du coup, donc je peux continuer plutôt.
Allons-y, ouais. Il me reste 2 minutes. Là.
2 minutes. Alors, ouais. On va dire, allez, le petit Anjou, par exemple, pour parler d'une association qui font un travail incroyable, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des centaines de kilomètres de voies en Anjou, de voies ferrées, d'un petit train qui circulait partout. Et il y a une association qui a décidé de sauvegarder une gare, enfin, qu'elle renaisse de ses cendres à Saint-Jean-de-Linière. Et ils sont en train de restaurer plein de wagons, d'anciens wagons, de locomotives. Et puis, alors, s'il me reste encore un moment, je pourrais parler du Nouveau Théâtre Populaire. C'était le seul festival que je cite dans le livre, parce que c'est à Fontaine-Guérin, devant un clocher tort magnifique, où c'est un festival depuis une quinzaine d'années, des gens qui font un travail formidable sur le spectacle vivant, le théâtre, et à des prix très abordables. Et voilà, et on espère qu'ils vont réussir à s'en sortir avec les subventions qui leur ont été coupées. C'est pas les seuls hein, à souffrir.
Oui, tout le monde souffre. Tout le monde souffre en Pays de la Loire. Voilà. Et tout particulièrement tous les projets dont vous parlez, c'est beaucoup des bénévoles qui les portent. C'est beaucoup des petites structures qui mettent de l'énergie, qui mettent vraiment de la sueur et qui sont pas payés de retour finalement par l'institution publique. Quoi. C'est vraiment très très dommage. Je vous remercie, Étienne Bégoin, d'être venu jusque dans le studio non climatisé de Radio G. Je vous remercie surtout pour ce guide ultra pratique. C'est bien connu que ce que l'on connaît le moins, c'est tout ce qui est autour de nous. Avec ce guide, vous faites une œuvre de salubrité publique. Et maintenant, nous faisons une deuxième pause musicale. Qui a interprété Matar, et vous êtes toujours bien sur Radio G à écouter Entre les Pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Après Étienne Bégoin qui nous a emmené au cœur de l'Anjou, passons à Cécile Massin. C'est mal écrit ce que j'ai écrit, elle a avec des enfants du centre de loisirs de Montjean, ça ne veut rien dire du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, je vais le reformuler. Elle a travaillé avec des enfants du centre de loisirs de Montjean et pour nous inviter à un voyage immobile. Bonjour Cécile Massin. Allô? Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bien, ça résonne un peu, ça résonne beaucoup même, je ne sais pas ce qui se passe. Ah si, voilà, vous m'entendez?
Je vous entends, est-ce que ça résonne trop?
Ouais, ça résonne un peu trop, peut-être que vous êtes... Vous
alors, avez... je vais essayer de me déplacer.
Voilà, là c'est peut-être un peu mieux.
Est-ce que c'est mieux?
Oui, c'est mieux.
Bien. Ok, on va faire comme ça.
Voilà, vous étiez en résidence à la maison Julien Gracq à la fin de l'année 2024 et je vous avais accueilli dans le studio le 20 novembre dernier. La maison Julien Gracq, c'est une maison pour les écrivains, vous êtes photographe et vous vous tournez vers le son en réalisant ce podcast. Pourquoi le son?
Alors, donc effectivement, donc moi j'ai démarré par la pratique photographique documentaire, mais donc je suis journaliste en presse écrite et en podcast depuis maintenant presque 5 ans. Et donc en fait, dans le cadre de cette résidence, j'ai eu la possibilité d'explorer différents médiums. Le son, c'est un des médiums qui m'intéresse aujourd'hui le plus dans ma pratique professionnelle. Et c'est vrai que pour travailler autour de cette question du voyage et pouvoir créer tout un tas d'atmosphères autour de ce sujet, voilà, c'est un médium qui me paraît intéressant à explorer.
Mmh. Combien de temps vous avez passé avec les enfants du centre de loisirs de Montjean?
Alors, je les ai vus donc sur 5 séances, espacées parfois de plusieurs semaines entre janvier et avril 2025. Et donc l'idée, c'était donc en fait d'avoir des séances à la fois avec les enfants seuls, à la fois avec les seniors seuls, et puis certaines séances en commun pour que vraiment on puisse un peu tisser ce dialogue intergénérationnel autour du voyage immobile.
Oui, alors vous venez de donner le titre, le voyage immobile. Et donc pourquoi le voyage immobile?
Alors, pourquoi le voyage immobile? En fait, la thématique de la résidence donc, que j'ai faite pendant 3 mois à la maison Julien Gracq, c'était de travailler autour des nouveaux imaginaires. Donc, la question, c'était de se demander un petit peu comment on pouvait imaginer des nouveaux imaginaires écologiques et sociaux et en quoi c'était important de les faire exister si on voulait aller vers un monde plus désirable et plus joyeux. Et donc, c'est vrai que dans cette question des nouveaux imaginaires, moi, j'ai très rapidement pensé au voyage parce que c'est une thématique qui m'intéresse. Cette idée, c'était un peu de se demander, à l'heure du dérèglement climatique, qu'est-ce que ça voulait dire de voyager si on arrêtait de prendre l'avion matin, midi et soir, si on respectait les limites planétaires, et est-ce que ça voulait dire qu'on tirait finalement un trait sur l'émerveillement, sur la surprise, sur la rencontre de l'autre, que suscite le voyage, ou est-ce que ça pouvait dire qu'on pouvait imaginer d'autres formes de voyage? Et à partir de là est venue la réflexion autour d'un voyage immobile. Donc l'idée de cette immobilité, c'est vraiment voilà d'un voyage juste en bas de chez soi, qu'on peut faire n'importe où hein, d'ailleurs, et que moi donc j'ai fait sur les bords de Loire, puisque c'était le lieu de résidence.
Oui, mais attendez, là, c'est politique tout ça?
Alors oui, bien sûr. Évidemment, il y a une réflexion très politique derrière autour de ce que c'est que de voyager, voilà, à l'heure du dérèglement climatique, comme je le disais. Après, l'idée, c'était d'aborder ce sujet-là avec les partenaires. Sans arriver avec effectivement une étiquette politique très affichée, mais plutôt de passer par le sensible. Et en fait, de se demander, voilà, avec des participants qui étaient d'âge quand même très très divers, on était entre 7 et 95 ans, grosso modo, de passer par le sensible et de se demander, voilà, pour eux, chacun d'eux, à des âges très différents, avec des études très différentes, qu'est-ce que ça pouvait être de voyager à côté de chez toi et qu'est-ce qu'ils y voyaient d'un peu magique, quoi, de ce qui leur faisait, ce qui les faisait vibrer eux chacun avec voilà leur vécu et leur parcours différent.
Ce podcast, donc il est en ligne maintenant, on le trouve, on peut le l'écouter où?
Alors on peut l'écouter donc sur le site de Novetic, qui est donc Novetic, N-O-V-E-T-H-I-C, qui est donc qui était le média partenaire de la résidence, et donc il est accessible gratuitement. Il suffit de taper dans la barre de recherche quelque chose comme le voyage immobile sur les bords de Loire Novetic, et comme ça n'importe qui peut l'écouter.
Eh ben, écoutez, Cécile Massin, je vous remercie d'avoir d'être restée sur votre téléphone pour pouvoir converser avec moi. Je vous remercie. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis, ben, maintenant, je vous invite au voyage immobile. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Pour pouvoir partir en voyage, il me faut un cheval,
un carrosse,
une chemise,
voler,
une boussole,
une chaussure,
un pantalon,
une moto,
un éléphant,
un chapeau,
un lion,
un zoo,
un Firmosaurus rex,
un Hadis Tyrannosaurus rex,
un cochon,
un Hadis cochon,
la résidence Amandier,
être vivant,
un verre d'eau,
une baleine,
du Red Bull,
des chaussures,
des bras,
du poulet,
la terre entière.
Il était une fois.
Il était une fois, bah...
Lundi dernier, au bord de Loire.
Bon, il y a... En avant, si on veut. Au milieu.
Elle a pardonné, je vois.
Oh non, c'est une biquette.
Oh, c'est une biquette de 10.
Bah, outre comme ça sur pattes.
Où ça?
Là, juste au pied de l'arbre, là. Là.
Ah oui, c'est une chèvre. Ah oui, effectivement.
Dans l'arbre. Par terre, en dessous des branches d'arbre.
Ah oui. Eh bien, alors les enfants, rapidement. Toutes les couleurs que vous voyez devant vous. De fleurs. Devant vous, il y a différentes couleurs de fleurs. Est-ce que en moins de 30 secondes, vous pouvez toutes les repérer?
C'est bon, je les ai toutes repérées.
Alors, nous t'écoutons.
Jaune, rose et violet.
Alors, il y a du jaune, il y a du rose et du violet.
Et il y a un peu de rouge. C'est rose.
Là, c'est rose, effectivement.
Il y a du vert
qui est là.
Ben non, c'est pas des
fleurs. La valériane, tu la qualifies comment? La couleur
de
cette plante.
C'est rose.
Oui, c'est un rose plus foncé que le géranium. Oui. Alors, le jaune, vous le connaissez. C'est le
pissenlit.
Le fameux pissenlit. Et puis... Donc c'est quelle couleur la petite fleur que montrait j'ai pas votre prénom.
Colette.
Colette.
C'est c'est celle qui pue, non? Enfin, qui sent mauvais, non? Non. Attends, elles sont blanches.
Ah, alors, c'est pas tout à fait blanc.
Blanc-bleu. Bleu.
Oui, voilà, c'est un blanc-bleu. Effectivement, il y a des nuances de blanc et de bleu. Excellent, salade. La mâche doucette. Et elle a des fleurs minuscules.
Et on voit une... petite fleur rouge qui est là-bas.
Ah,
où ça? Là. Non, ce n'est pas une fleur.
Fleur rouge.
Là-bas ou non?
Ah oui, oui, alors ce n'est pas une fleur.
C'est un quoi?
C'est un fruit. C'est un fruit qui est resté depuis l'automne dernier. Et si vous aviez l'occasion de le croquer, vous auriez une bonne dose de vitamine C.
D'accord.
Ah oui,
ah,
oui,
ah bah il y en a plusieurs d'ailleurs, regardez, il y en a trois. Quatre.
Ah oui. Il y en a plein.
Les fruits du rosier sauvage, de l'églantier.
On en a déjà mangé. Là.
Voyager. Ben, s'évader du quotidien un peu, découvrir des choses, et on peut découvrir ça tout près de chez nous. Hein. Tu peux voir la Loire, tu vois tout un tas de choses, des animaux, des beaux paysages, la Loire qui monte, qui descend. Tu prends tes brodequins, tu prends... ton sac à dos, et puis tu vas voyager.
On peut très bien voyager sans partir loin. Regarde bien autour de toi. Tu écoutes les bruits aussi. Tu écoutes les oiseaux.
Ah bah oui.
Tu observes bien, tu as une petite fleur qui vient de pousser là. Ou... Il y a plein de choses merveilleuses. Bientôt, ça va être le printemps. Vous verrez les bourgeons s'ouvrir d'abord, puis après les petites feuilles, puis après les feuilles qui grandissent. Vous verrez les petits oiseaux.
De toute façon, on s'émerveille de tout quand on va quelque part.
Bon, alors les enfants, et puis les grands. Les enfants, voilà, non, tenez, regardez.
Il y a des serpents. Oh, regardez. Oh là, il y a des fleurs violettes. Trop beau.
C'est de l'oseille sauvage.
Parce que vous allez trouver un goût. Alors, vous allez repérer un goût acidulé. Vous avez raison, Colette a raison. Mais oui. Et le goût acidulé parce que c'est hyper riche en vitamine C.
On peut le manger ça?
Mais oui.
On mange quoi?
Même la tige.
On mange la tige?
Non, c'est dur la tige.
Non, vous mâchouillez parce que les espèces que l'on mange, ce sont des espèces plus petites.
Attends, je peux goûter.
Là, c'est de l'oseille.
On mange que les salades? On mange que les grains?
Déjà quand vous croquez.
Ah, c'est trop bon!
Parce que vous retrouvez un goût acidulé.
Oui.
Et c'est de la vitamine C qui est présente dans la plante.
Est-ce qu'on mange les grains aussi?
Tu peux, hein. Mais c'est plus intéressant si tu croques et tu gardes en bouche.
Fraîche, par contre.
C'est trop bon, hein. Attends, moi j'ai pas pris de tige. Ah, tiens. Là, c'est tige.
C'est un goût de mûr un petit peu.
Oh, pas de mûr de. Si, de mûr. Ok, vas-y, je teste.
Alors, tenez, ce que vous allez faire, tiens. Je confie la fleur de Véronique.
J'en ai une.
Il faut pas qu'elle s'envole. Je sors une loupe. Vous allez la regarder à la loupe.
Ça se mange ou pas?
Toutes les fleurs.
Non.
Oui, la fleur de Véronique se mange, mais ne mangez pas tous les enfants. Laissez-nous observer des choses.
Ah, ça se mange, mais tout se mange en fait.
C'était la dernière.
Non, il y en a d'autres là.
À la Loire, moi, le plus souvent, je vois les cygnes, des foulques. En été, le plus souvent, c'est asséché. En automne, la Loire, elle est plutôt haute. Et je vois souvent des oiseaux qui sont là. Et puis, des fois, j'en vois 0, 0, 0.
Qu'est-ce que la Loire est belle? Elle est belle à cette époque-là. Des fois, on voit quand on reste longtemps, on voit un héron. J'avais remarqué quand on venait se promener là, les oiseaux commençaient à voler sur la Loire, mais que vers 3h30, 4h, ils devaient faire la sieste. Il y a les hérons, il y a des sternes, des mouettes, des cormorants. Il y a pas mal d'oiseaux.
Je vous montre un petit peu, je vous fais entendre une imitation du chant de la mésange charbonnière et après vous allez essayer de le faire. La mésange charbonnière. Le mâle, souvent, on l'entend faire. Alors ça, c'est... Et autrement, tu peux rajouter une note. Un peu comme s'il disait pipi dessus, pipi dessus, pipi dessus.
Oh, j'y arrive.
C'est une jeune maison charbonnière qui s'entraîne. Moi, je pense que c'est une maison charbonnière qui a un certain avenir. Ça fait vraiment, oui, quand je vous dis, ça fait vraiment l'impression que j'ai dit pipi dessus, pipi dessus, pipi dessus, pipi dessus, pipi dessus.
Voyage.
Eh
bien voilà comment on peut travailler à partir de l'écriture et aller un peu partout, comme nous l'a expliqué Cécile Massin. Expérience intéressante, moi je trouve, que d'associer comme ça les générations autour d'un projet de cette nature-là. Ces paroles sont intéressantes, ces chants d'oiseaux sont magnifiques. Et ben, on souhaite beaucoup d'écoute à ce podcast, mais entre les pages, ben, c'est terminé. Merci Étienne Bégoin d'être venu jusqu'au studio. Merci de m'avoir rendu visite.
Mais avec plaisir, merci Luc.
Mais avant de refermer la porte du studio, quelques informations sur l'actualité du monde des livres en Anjou. L'association Poésie Cause Toujours sera ravie de vous accueillir au temps fort de la résidence d'écriture des autrices Zoé Besmont de Senneville et Colline Pierret, qui seront accueillis du 23 juin au 4 juillet à la piscine de Rochefort-sur-Loire pour l'étonnant projet PEPS, piscine en poésie. Et surtout à la soirée du 3 juillet à la piscine du Louet. En plus de poèmes, il y aura le groupe The Loire Valley Calypso, ça va être torride. Vous informez déjà qu'à la fin du mois de septembre, deux moments importants vont avoir lieu. Le festival Les Préférences, organisé par la maison Julien Gracq, et un tout nouveau rendez-vous qui vient suppléer la disparition du marché de la poésie de Béhar. Ça sera l'International Poétique et c'est organisé par la Miel 49. Je ferai circuler des informations parce que c'est un très beau projet. Même s'il a lieu en même temps que le Festival des Préférences, on assurera le service sur les deux. Enfin, plus près de nous, demain c'est Jean-Louis Zine qui sera l'invité des Bouillons pour son roman La Chaise. Ce sera à l'Université catholique à 19h. Mais surtout, précipitez-vous ce soir à 19h à la librairie Myriagone, puisqu'ils reçoivent Adèle Yon, le phénomène littéraire du moment avec son roman « Mon vrai nom est Elisabeth », publié aux éditions du Sous-sol. Et si vous manquez ce rendez-vous, vous pourrez vous rattraper le vendredi 20 juin dans le même lieu pour une rencontre avec Olivier Marbeuf pour son livre « La nuit juste avant le feu ». Au cours de l'émission, vous avez écouté Théophile qui a chanté « Déconnecté » et Alright Mela qui ont joué « Matar ». Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, eh bien, ce sera le mercredi 2 juillet à 17h. J'ai invité Mathilde Gall à venir parler de son livre « Des vies orageuses ». Et puis, cet été, comme d'habitude, Entre les Pages ne s'arrête pas. Et Entre les Pages j'ai décidé de vous emmener dans des bibliothèques insolites, sans pour autant qu'elles soient exotiques. Je vais vous emmener dans la bibliothèque du château de Serrant. Vous retrouverez cette bibliothèque dans le guide qui a été édité et réalisé par Étienne Bégoin. Je vous emmènerai aussi à la bibliothèque sonore de Segré. Une des seules bibliothèques sonores du département, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, à la bibliothèque de la Société d'horticulture d'Angers et du Maine-et-Loire, là aussi, encore des beaux livres, de très beaux livres, très anciens à découvrir. Et puis, je terminerai ce périple fin août en passant par la bibliothèque de la Maison d'arrêt d'Angers. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.
Oh, stop.
off from the bough and seeing the bush is so shy. And even the wake, simple to stop, made an effort to wink with one eye.
FM.